c'est ça que fait n'habiter. Trop près, c'est pas fait jour. L'ouvrir, n'a pas monté un calvaire en haut à guerre.
Et bien voilà, c'est notre deuxième tranche en bâtonnet la caille. Nous y venons, n'a pas avec aujourd'hui 8h du soir. En nous rappelant rapidement, nous retournons jeune l'heure où t'étendez, nous t'ai dit dans la première tranche. Mais si jamais c'est qu'on a capté, nous on a fort songé en bâtonnet la caille. Nous chaque dimanche déraper 6h jour 8h du soir. 6-8 le dimanche, c'est sous WMFO 91,5 FM stéréo, li sous www.wmfo.org. Ou capable pour un texte pour nous dans 617-699-95-40. Nous c'est sort font râler sous travail mode Heurte Loup. Et donc quand c'est tracé un nouveau chemin, personnage un qui nan qui la donne c'est Fanfan. C'est histoire yon ti moun ki pa tankou tout lòt ti moun et nan yon fami. Et donc et depuis quelque temps ou konnen nou tap li le ventre de l'Atlantique, c'est avec travail Fatou Diome. Fatou Diome c'est yon français sénégalaise qui en tout cas c'est en France li habite. Et li écrit en pile causé sous causement immigration de roman ça nous gè quelques jours n'a bo quelques chapitres là dernier nous rivé dans chapitre 6 c'est en français lié et donc de Moussa il ne restait qu'une photo jaunie en mode voyer de Paris que une détard brandissait devant ses protégés pour authentifier son récit. En effet, de tous les habitants du village, l'instituteur était le seul à détenir la version complète de cette histoire. À son retour, le jeune homme avait fait de lui son confident. Chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité. Seul enfant mâle, aimé d'une famille nombreuse, il était l'aîné d'une famille nombreuse, Moussa en avait assez de contempler la misère des siens. Depuis qu'il avait quitté le lycée, faute de moyens, l'avenir lui apparaissait comme une ravine, l'emportant vers un trou noir, car il ne voyait pas quoi mettre à la place du bureau climatisé de fonctionnaire dont il avait tant rêvé. Mais il n'était pas garçon à baisser les bras. Pour les pauvres, disait-il, vivre c'est nager en apnée, en espérant atteindre une rive ensoleillée avant la gorgée fatale. À 20 ans, décidé à aller chercher fortune, il quitta le village pour la ville de Mbour, sur la petite côte sénégalaise, où il se fit engager comme matelot dans l'une de ces grandes pirogues qui pratiquent la pêche artisanale. Ambitieux, le jeune pêcheur, frappait à toutes les portes. Trop de gens comptaient sur lui pour manger. Il ne pouvait se contenter des rendements hypothétiques de la pêche. Après quelques tentatives, il réussit à trouver une place dans l'équipe de football de la même ville. Il fut régulier aux entraînements et se donna de tout son cœur lors de matchs. Très rapidement, il se fit remarquer par Jean-Charles Sauveur, un Français qui se disait chasseur de talent pour le compte d'un grand club français, qui a dit que le bon Dieu est sourd. Le recruteur n'eut aucune peine à convaincre le jeune Poulain. Il lui avait suffi d'abattre ses cartes, un billet d'avion payé par le club, un logement garanti dans un centre de formation où l'on l'entraînait avec les juniors avant de le propulser vers la gloire au sein du grand club et surtout la promesse d'un salaire mirobolant. Seul l'âge du garçon posait problème. 20 ans, c'était un peu trop pour rejoindre la formation des juniors. L'épine fut vite ôtée. Ici, on peut s'octroyer une deuxième, voire une troisième naissance. Il suffit de quelques billets dans le dos du chef de bureau ou en tête-à-tête avec lui. Et puis, on ne refuse rien à quelqu'un qui va en France. C'est une future relation enviable. Jean-Charles Sauveur, un habitué, sort des francs français au bon moment. Sur le visa, une formalité. Dans les ambassades aussi, on sait boire son pot de vin en silence. Du bon vin français, ça fait mieux passer les cacahuètes. La vie sous les tropiques est si dure. Un compatriote de passage, ça fait toujours du bien. Bon voyage, messieurs. Quelques jours plus tard, Moussa tapait un ballon gonflé d'espoir dans un stade français. Ce n'était qu'un entraînement, mais pour lui, c'était le match le plus important de son existence. Pour la première fois, il évoluait sur un terrain de football avec des vestiaires et une pelouse bien verte. Toute sa volonté, il tentait d'émerveiller l'entraîneur français qui scrutait tous ses gestes avec son gabarit. Si on arrive à affiner tout ça, ce sera un vrai bulldozer à l'attaque. Commentait ce dernier. Il en fut ainsi alors de tous les entraînements qui suivirent. Sous l'œil paternel de Jean-Charles Sauveur, Moussa se sentait investi d'une mission sacrée. Il ne devait pas faillir. Sauveur attendait impatiemment qu'il confirme ses talents pour rentabiliser son investissement. Sur le soir, au centre, en regardant la télé, Moussa s'indignait de ce marchandage de joueurs et finissait par délirer sur les prix faramineux des transferts. Le Real Madrid a acheté ce gars à tant de millions de francs français. La vache, combien cela peut-il bien représenter en francs un CFA, et au moins de quoi s'acheter 5 villas avec piscine sur la côte dakaroise. Même s'il s'amusait à calculer en s'imaginant au cœur d'une telle transaction, ce procédé d'esclavagiste ne lui plaisait guère. Mais il n'avait pas le choix. Il faisait maintenant partie du bétail sportif à évaluer. Moussa savait qu'à défaut de se faire engager dans le club qui misait sur lui, il devrait lui-même rembourser à Sauveur les frais engagés, billets d'avion, pot de vin, frais d'hébergement, de formation, etc. Alors, il se donnait à fond. Donc, chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité. Sauf de la France, il ne connaissait que le centre de formation et les pelouses givrées. Donc, pour le tourisme, il verrait plus tard. Après tout, il n'était pas venu en France pour les châteaux. Bientôt, lorsque les matchs seraient retransmis à la télé, lorsque les enfants de Nio Dior pourraient admirer ses exploits et qu'il serait enfin convié à la présidence de la République sénégalaise, il pourrait s'offrir entre deux championnats un tour de France en Porsche. Aussi, adressa-t-il aux siens un courrier qui ne contenait rien d'excitant, ses parents qui, en allant faire lire sa missive chez Ndétar, attendaient les aventures de Télémaque et en mieux furent assez déçus. C'était une lettre aussi pauvre en contenu qu'un compte rendu du Paris-Dakar par Johnny Hallyday. L'instituteur traduit ceci. « Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, on s'entraîne tous les jours. Je ne touche pas encore le salaire, mais ce sera pour bientôt. Que le ciel vous garde, priez pour moi. » Outre ces sept courtes phrases, il y avait dans l'enveloppe une photo prise lors de l'unique sortie organisée par le centre pour leur faire voir l'équipe nationale en action. Son père, ivre de colère, jeta la photo à la tête de l'instituteur en maugréant. « Et voilà, mon fils à peine en France, il a déjà changé. Regardez-moi cet accoutrement. » Et il a le toupet de me parler d'un salaire de footballeur, comme s'il ne pouvait pas se trouver un vrai travail. Des gaillards qui font les cabris entre quatre poteaux, il appelle ça travailler. Que le ciel lui ouvre les yeux. Ndédard, tu vas tout de même m'écrire une lettre pour lui. Tu mettras exactement ce que je vais te dire. Pendant que son absence narguait son père, Moussa découvrait la rigueur de l'hiver, les morsures du vent sur sa peau, la rareté du soleil, puis ce rhum prolongé qui l'obligeait, même sur le terrain, à porter souvent la main à son nez. Il découvrait aussi ses compagnons du centre de formation, en majorité des Blancs, pas franchement camarades. Au centre, l'esprit d'équipe, on s'entorchait. Les dents étaient glandes, le gibier insuffisant. Les stagiaires savaient qu'ils ne seraient pas tous titularisés. Les quelques places du grand club s'arrangeaient à coups de crampons et d'intimidation. Il fallait avoir des nerfs d'acier. Moussa n'avait pas d'habitude d'une telle compétition. Là-bas, chez lui, on lui avait appris qu'il ne fallait pas envier, jalouser, ni même rivaliser, que seul le Dieu accorde à chacun ce qui lui est dû dans l'existence. Du sport en dehors de la promesse de réussite, Moussa n'en attendait qu'une franche camaraderie et le respect mutuel. Il ne trouva que calcul sordide et mépris. Sur le terrain, il perdait ses moyens lorsque certains de ses coéquipiers lui hurlaient « Hey, négro, tu ne sais pas faire une passe ou quoi? Allez, passe le ballon, ce n'est pas une noix de coco ?» Au vestiaire, il y en avait toujours un pour le ridiculiser devant les autres. « Alors, tu ne sais pas faire une passe? T'inquiète, on t'apprendra, on te fera visiter le bois de Boulogne la nuit. Tu seras invisible, mais tu pourras tout voir. Hey, le gars, peut-être qu'il préfère pigaille. Devinez-vous quoi, le mec, il n'a jamais visité Paris et vous savez ce qu'il m'a sorti la dernière fois? Eh oui, c'était le temps des confidences, quoi. Alors, forcément, pour oublier le mal de sa cambrousse, Tarzan s'épanche. Alors, les gars, vous voulez vraiment savoir ce qu'il m'a dit? Hey, fais pas chier, criait le caïd. Accouche qu'on rigole un peu. Bien, il dit que c'est un célèbre sculpteur français du XVIIIe siècle, un certain Jean-Baptiste, qui aurait donné son nom à la rue Bicaille. Vous en entendez ça bien, les mecs? On se demande où il va chercher tout ça. Me dis pas que ça se discute sculpture sur les bananiers. Et si ça se trouve, il était déjà là, lui, à cette époque. Rappelez-vous la bonne vieille Lucie vient de chez eux. Il ferait mieux de bouger avec le ballon au lieu de faire la statue sur le terrain. Motivé, Moussa offrait son dos aux blagues déplacées, se retenant de boxer les auteurs des injures à des colibères, mon Dieu, apnée, jusqu'à la rive ensoleillée, tenir, martelait sa voix intérieure. en bon insulaire. Il se consolait avec des mots bien de chez lui. Les vagues peuvent toujours frapper, elles ne feront qu'affûter le rocher. Les mois passèrent, le rocher de l'Atlantique ne perçait toujours pas de ballon de France. Recruté sur son potentiel d'attaquant, Moussa n'avait jamais inscrit le moindre but, malgré les entraînements intensifs et ses nombreux gris-gris. Lors des vrais matchs, il lui fallait se contenter de lustrer le banc de touche ou de servir de numéro complémentaire, souvent placé à contre-emploi dans des postes qui ne lui permettaient nullement de mettre en valeur ses atouts d'attaquant. Il admirait les vestiaires, appréciait les douches chaudes sous lesquelles il imaginait de belles actions qu'il n'avait jamais pu réaliser. Il s'était même inventé une pose victorieuse avant les glorieux acteurs de Mondial 1998. Non, Moussa ne se serait pas contenté d'un regard vague et d'un droit posé sur la bouche pour inviter les spectateurs à admirer le merveilleux buteur épaté par son œuvre. Ce numéro de pantomime aurait été peu expressif à son goût. Enfant de la terre et du rythme, il exécutera un balax endiablé avant de se jeter sur la pelouse. Peut-être même qu'il ferait trois sauts périlleux pour prolonger les applaudissements. Mais jamais il n'eut l'occasion de concrétiser cette scène. Mille fois répété mentalement, non seulement le froid lui nouait les muscles, mais il devait fournir d'énormes efforts pour se traîner avec cette boule de nostalgie qui grossissait dans son ventre et ne laissait presque plus de place à la nourriture diététique du centre de formation. Longtemps après la fin de la période d'adaptation qu'on lui avait accordée, ses résultats demeuraient décevants. Le centre ne voulait plus de lui. Sauveur, sentant son investissement en péril, prit les devants. « Écoute, champion, lui dit-il, j'ai déjà assez dépensé comme ça et tu ne progresses vraiment pas. On va arrêter les frais. » Et puis, tu me dois environ 100 000 balles. Il faudra que tu bosses pour ça. Comme tu le sais, ta carte de séjour est périmée. Si tu t'étais bien débrouillé, le club aurait tout réglé en vitesse, mon fric, tes papiers, tout quoi. Mais là, tu n'as ni club, ni autre salaire. Le renouvellement de la carte de séjour faut même pas y songer. J'ai un pote qui a un bateau, on ira le voir. Je te ferai engager là-bas. On ne lui demandera pas toujours, ça l'aidera à la fermer. Il me versera ton salaire et quand tu auras fini de me rembourser, tu pourras économiser de quoi aller faire la bamboula au pays. Tu es un gars solide, tu vas assurer. Mais surtout, n'oublie pas que tu n'as pas de papier. Alors, au moindre mot, les bleus t'offriront des bracelets et tu n'auras pas plus qu'à jouer du jazz à l'ombre. Remarque, si tu n'as pas besoin de bronzer, toi, et bon, quelqu'un viendra te chercher demain pour te conduire au bateau. Une fois là-bas, c'est terminé. On ne se connaît plus. Motus et bouche cousue. Et puis, salut, champion. Moussa n'eut que la soirée pour plier son peu de bagages. Sauveur avait pris soin de le débarrasser des quelques masques qui ornaient sa chambre. Amer, devant ses murs vides, l'infortuné sembla soudain se réveiller d'une longue torpeur. Merde, il m'a piqué tous mes masques sacrés, se dit-il. Ce gars est un vrai rapace. Je n'irai pas dans ce foutu bateau. Ces gens-là vont me tuer à la tâche et ne me donneront jamais un centime. J'en suis certain. Je ne sais pas où je vais aller, mais je vais foutre le camp ici d'ici avant qu'ils ne me viennent me chercher. N'arrivant pas à fermer l'œil de la nuit, et il prit la dernière lettre de son père et cela relut. Donc, et puis, mon fils, « je ne sais pas si tu as reçu mes précédentes lettres, puisque je n'ai toujours pas de réponse de ta part. J'ai vu ta photo. Maintenant, tu me portes, et tu ne portes ni ta, ni tiata, et ni tiaya, pantalon tout fin, ni sabador, boubou, et cela m'inquiète. Ton accoutrement cache-t-il d'autres changements de ta personnalité? Il n'y a point de mutation extérieure sans mutation intérieure. Je prie donc pour que ton âme soit restée aussi pure qu'à ton départ. N'oublie jamais qui tu es et d'où tu viens. Quand Dieu dit cela, je veux dire que tu dois continuer à respecter nos coutumes. Tu n'es pas un blanc et comme eux, tu commences à devenir individualiste. Voilà plus d'un an que tu es en France et jamais tu n'as envoyé la moindre... le moins de sous à la maison pour nous aider. Pas un des projets que nous avions fixés à ton départ n'est à ce jour réalisé. La vie est dure ici. Tes sœurs sont toujours à la maison. Je me fais vieux et tu es mon seul fils. Il est donc de ton devoir de t'occuper de la famille. Épargne-nous la honte parmi nos semblables. Tu dois travailler, économiser et revenir au pays. N'a pas fond capella pas oublié, c'est un travail Fatou Diome, le ventre de l'Atlantique, et n'a pli chapitre 6 pour là. Donc, reste avec nous, n'a pas avec vous, jour 8 du soir, pas oublié, c'est deuxième tranche en bâtonnel là, oui, qui est avec vous là. Donc, arrêtez là, et nous pouvons check avec Kiki, et encore pour Kiki, font une musique pour nous, et puis n'a pas venu nous, pour nous continuer avec Réchapitre 6 là, et en Fatoum. Fatou Diome, le ventre de l'Atlantique. Et puis, mais Kiki, on va être avec Sucré Zoray Moun Boston. Kou maman, kou mati boulout. Oui, pip, oui, pip. Kou maman, kou mati boulout.
Ospre votre travail dit, mais li pa fè la jambe. Timoun, madame, à qui on bonne, ça c'est trop. Madame, papa travail, Timoun, yo mange en pile.
Quel loyer pour payer, quelle école pour payer, poste prévôt ou nan ka. Quel loyer pour payer, quelle école pour payer, poste prévôt ou nan ka.
Poste prévôt nan traka. Voisin a yo courant, la merci ti bon nan, pa kon se rekose, non seulement ça encore, yo kon wè ti nene.
Se ma souye leve, la pramase, la pramase, la pramase poussière, la pramase poussière. Fait passer par l'entourage. Son bon gars.
garçon lié, li pa mande remèt.
Li pa san gat deye, paske madame Prévo kon bal morso gato. Li pa san gat deye, paske madame Prévo kon bal morso gato.
Bos Prévo pa rete, ta fi apote la le. Gen moun ki di kon sa, se madame li tou. C'est sacré,
Boss Antoine t'est placé avec madame Prévost. Oh, oh, oh. Oui, pip, oui, pip. Cou maman, cou ma tiboulotte. Oui, pip, oui, pip. Cou maman.
N'a pas continué dit Kiki, merci avec belle musique ça et qui bien décrit certaines situations là pour nous dans pays là. Donc nous connaît tout tes travail Kiki, toute vie li, c'est toute vie artiste li, c'est dénoncer, c'est vous regarder proposer solution pour l'autre société bâtie dans pays là. Dans pays nous hein, et puis donc travail Kiki t'inquiète pas ça ton ouais nous joli là gagne on fait plus analyse sur lui nous parle avec Kiki et en fait monsieur gagne on travail qui pour sortir oui qui pour venir là qui parle prendre près de 60 ans depuis la publier et travail dans théâtre dans musique etc. En tout cas nous t'est arrivé dans lettre que papa Moussa t'est voyé pour l'IA après Moussa, ça a fait toute expérience qu'il a fait en fait là nous à la fin de sa lecture, Moussa s'allongea et se résolut à attendre celui qui devait l'amener au dit bateau. Donc plusieurs fois, il reprit la lettre et en relut la fin. Épargne-nous la honte parmi nos semblables. Tu dois travailler, économiser et revenir au pays. Impossible de se débiner. Il ferma les yeux pour imaginer la force qu'il lui faudra pour être à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Son voisin de chambre écoutait une musique bruyante, sans mélodie, sans phrase. Il ne savait rien du drame qui tapissait le mur mitoyen. Perdu dans l'univers citadin, chaque tortue traîne sa carapace au rythme de son souffle. Le monde de la techno n'entend et n'attend personne. Du calme pour la première fois depuis son arrivée au centre, Moussa tapait du bois. Il jeta sur son lit les mains en croix sur sa poitrine, les yeux clos. Il sentit sa vie se dresser devant lui, tel un tronc de baobab, impossible à embrasser. Du calme, il lui fallait du calme pour s'inventer un autre destin, une musique pour ses rêves, émettre les battements de son cœur au diapason d'une réalité purgée du blues. Enfin, du calme, mais il n'en avait plus besoin pour entendre la complainte assourdissante des siens, les échos d'une phrase que le bourdonnement des vagues déverse sur son village depuis la nuit des temps résonnait. Mis ininterrompu au fond de son crâne, chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité. Et cette phrase lui en imposait une autre. Tu dois travailler, économiser et revenir au pays. Travailler une fois au bateau, Moussa n'avait fait que cela. Travailler encore et encore jusqu'à ce que la nostalgie lui suinte des pores. Les seuls parfums qu'il sentait de ce pays, c'était le fraîchin qui exaltait les fonds de cale et les odeurs lourdes qui émanaient des corps robustes de ses collègues aussi mal rasés que lui. Pour Moussa, la finesse de la cuisine française ne voulait rien dire. Son estomac ne stockait que les repas peu goûteux, servis par un cuisinier qui se mouchait avec les doigts en épluchant ses pommes de terre, un matelot qui n'hésitait pas à courir à la tinette contre le plat de résistance et le dessert. Pourtant, un homme stoïque, il s'en contenait en se disant qu'après tout, ce n'était pas si mal d'être logé et nourri. Il pourrait être ainsi, après avoir remboursé Sauveur, économiser la totalité du salaire que le patron lui verserait quand il s'estimerait assez riche pour rentrer au pays. Pendant longtemps, la beauté de la France se présenta à lui sous la forme de quelques lumières multicolores entreaperçues depuis le port. Lorsque, des mois plus tard, titillé par la curiosité, il profita d'une escale à Marseille pour aller voir de plus près ce qu'il y avait en France, en dehors des pelouses de stade et des fonds de cale. Les cloches de la vieille ville sonnèrent ses époussailles avec Fatah et Morgana. Le glas de ses rêves, il ne le savait pas encore, mais chacun de ses pas le rapprochait du lieu de crémation de ses aspirations. Authentique guelroir, il flânait, haletier, les mains dans les poches, les deux gourmands d'images, les poumons remplis d'aise, et se laissant guider par les fantaisies des urbanistes. Il ne remarqua qu'au dernier moment ce comité d'accueil qu'il avait repéré à son air ébloui et le suivait depuis quelques dizaines de mètres. « Tes papiers !» Il se retourna, surpris par l'ordre, et vit un képi qui ombrageait des sourcils fourmis de deux miniatures d'océan. Un soleil frileux lança un dernier clin d'œil et se retira sur la pointe des pieds pour aller rendre compte à Dieu. « J'ai dit « Tes papiers, négro !»« Ils sont chez le patron, » dit-il en confiant. « Quel patron ?»« Et puis où ça ?» hurla l'autre képi. « Le patron du bateau, là-bas, au port, » assura-t-il. « Voyez-vous ça ?» commenta le premier képi. « Monsieur est un seigneur. Il a besoin de porteur pour ses papiers. Et ton biberon, il est chez maman, je suppose. Allons voir ça !» Au port, le patron ignora jusqu'à l'identité de son matelot. Mieux, s'il ne l'avait jamais vu. Citoyen français, modèle et honnête patron, il montra ses pattes blanches, le travail au noir. Il s'en méfiait comme la peste, pour sûr. Moussa, escorté par ses guides en bleu, entama son tourisme administratif sur le territoire français. Il quitta le port alors que les étoiles narguaient l'ombre veloutée de la nuit qui s'évertuait à imposer sa douceur aux humains. C'était l'heure où le mousse devait servir le dîner à ses compagnons de galère qui désormais éviteraient de s'aventurer sur la terre ferme lors des escales. Docile, il monta dans la voiture de police en ignorant tout du cachot humide et nauséabond qui l'attendait. Il y passa quelques jours en se disant que n'importe quel lieu de la planète lui serait plus supportable que cette pièce exiguë où ses illusions lassées de virevolter se revenaient en mailloter et ses membres déjà engourdis. Pêcheur de fortune, il se sentait pris dans les filets du destin. Son horizon se liquefiait sous ses longs cils noirs. C'était là son triangle des Bermudes. Sahélien, aimant le soleil et la brise océane, il aurait donné n'importe quoi pour gambader, même en Sibérie. Devant la nourriture infecte que le gardien lui apportait, cette déjection de la conscience du pays des droits de l'homme, qu'il appelait nourriture, il en arrivait à regretter la purée à la morve servie sur le bateau. Le plus dur pour lui fut le manque d'activité. Alors, pour s'occuper, il s'allongeait sur le dos et plongeait dans son imagination pour se métamorphoser en araignée tissant sa toile, non pour capturer ses rêves fuyants, mais pour combler les nombreuses fissures des quatre murs et du plafond. Il gloutait cet exercice qui lui permettait de relativiser sa notion de l'espace. Sa mutation en petite bête rendait gigantesque la superficie dont il disposait et modifiait sa perception du temps. Lorsqu'un passage du gardien le tirait de sa rêverie, l'évidente réalité le remplissait d'amertume. Il devenait nostalgique et ses projets avortés, telles des danseuses démoniaques, s'exhibaient devant lui. Pour bien leur faire face, il les alignait le long des murs en faisant correspondre chacun à une crevasse. Afin de les examiner, en les uns après les autres, sans confusion, il baptisa chaque sillon du nom d'un projet. Les mots tissait ainsi avec une minutie arachéenne la ligne nécessaire à l'enchaînement et à la course des idées. Musulmans, il nomma les fissures en partant de la droite selon un ordre décroissant en fonction de ses priorités. Construire un grand bâtiment familial, investir dans l'achat d'une pirogue motorisée pour la pêche au village, ouvrir une épicerie pour maman. Comme ça, il y aurait toujours de quoi manger, économiser pour la dot, acheter des habits pour toute la famille, surtout les bijoux et des parfums de luxe pour la fiancée, payer aux parents un billet d'avion pour le pèlerinage à la Mecque, etc. Donc ses désirs tapissaient peu à peu la cellule et finissaient par lui en cacher les crevasses. Lorsqu'il était fatigué de les contempler, les leçons de son maître d'école coranique révélaient leur unique utilité, le rapprocher de son créateur en quelques génuflexions. Allah Akab, Allah Akbar. Le chemin qui mène à ce Dieu, auquel il rendait grâce 5 fois par jour, était certainement plus court que la largeur de la carte de séjour qui le séparait de la liberté et peut-être même de la réalisation de ses rêves. Alambou l'Ilahi, Moussa attendait le secours de Dieu. Inch'Allah, mais c'est un euphémisme du gouvernement français qui le trouva au fond de son cachot. Un matin, un policier arriva, sourire aux lèvres, et lança en brandissant un papier officiel. « Tiens, voilà ton invitation. » C'était un IQF, une invitation à quitter la France. 72 heures plus tard, un avion le vomit sur le tarmac de l'aéroport de Dakar. Ainsi était-il rentré, laissant dans sa cellule ses rêves d'un bourgeoisement enrichi seulement d'une force de méditation, d'un amour fou pour les araignées et d'une image de la France jamais vue sur les cartes postales. En quête de consolation, il regagna le village grâce à la générosité d'un proche parent qui avait daigné lui offrir de quoi payer son ticket pour le transport en commun. On se réjouit à sa vue, puis on lui demanda, sans lui laisser le temps de répondre, pourquoi il n'avait pas prévenu. On aurait fêté plus dignement son retour. Malgré l'absence de bagages, personne ne se doutait de son infortune. Il avait eu certainement hâte de voir la famille et avait fait affréter ses nombreux bagages qu'il irait chercher plus tard à Dakar. L'optimisme immola un coq pour remercier les ancêtres et 2 canards pour le dîner. L'effervescence suscitée par son arrivée musela Moussa durant 3 longs jours de festivité. Ne pouvant plus laisser les siens s'endetter pour l'honorer, il raconta sommairement et à sa France. L'explosion de la vérité le couvrit de cendres. Il ne brilla plus de la lumière européenne et devint moins intéressant que le plus sédentaire des insulaires. Presque tout le monde le méprisait. Même l'idiot du village s'octroyait de faire quoi? Le droit de le lancer. tous ceux qui ont travaillé là-bas ont construit des maisons et des boutiques dès leur retour du pays. Si tu n'as rien ramené, c'est peut-être parce que tu n'as rien foutu là-bas. » Moussa, le savant, s'est attardé, ne faisait que battre effrontément à ses oreilles la mesure d'une musique composée par d'autres. C'est bien connu, l'idiot est toujours le plus franc du village. Il limita ses sorties, évita les lieux publics et se réfugia dans un mutisme dont il ne sortait que lorsque Ndétar l'invitait à prendre le thé. Ayant trouvé en la personne de l'instituteur, l'unique habitant de l'île à lui manifester encore de l'attention, Moussa en fit son confident et se vautra dans sa compassion. Il l'accompagnait parfois au terrain de football et assistait muet aux entraînements. Les jeunes qu'il avait idolâtrés à l'époque où il était le Platini local s'occupaient de leur jeu, faisant mine de ne pas le voir. Magnanime, Ndétar, n'hésitait pas à mettre un deuxième couvert pour fuir les soupirs culpabilisants de ses parents et le dédain trop évident de ses sœurs. Moussa passait l'essentiel de son temps chez l'instituteur. Donc, la marée montait, les vagues de l'Atlantique frappaient, astiquaient la mangouvre, mais malgré leur insistance, elle n'arrivait toujours pas à donner à la boue l'éclat du sable blanc des rives ensoleillées. Les marées montaient avec elles, le bruit des vagues, qui charriaient la fange. La marée monta, la brise comme à l'accoutumée se répandit nauséabonde sur tout le village. Ne sachant pourquoi le gouvernement avait exilé l'instituteur sur l'île, avec l'interdiction de se rendre en ville, on essaya d'en découvrir les motifs dans son mode de vie. Son amitié avec Moussa renforça les suppositions. Ce citadin célibataire à un âge où tous ceux de sa génération regardaient grandir, leur descendance avait vécu chez les Blancs pendant une bonne partie de ses études. Moussa aussi était transformé depuis son retour de ce pays. Pour que ces deux hommes se fréquentaient si assidûment, il devait y avoir une raison autre qu'une banale amitié. Plus de villageois avaient affirmé les avoir vus se promener ensemble à la brune. Ils devaient probablement se livrer en secret à des pratiques malsaines ramenées du pays des Blancs. Et c'était ça, disait-on, qui les tenait à l'écart des autres membres de la communauté. La marée monta de plus belle. Bientôt, la palissade imbibée d'eau eut du mal à tenir debout sur la boue. Lentement, mais inexorablement, elle se mit à ployer et Moussa pouvait l'entendre murmurer « Atlantique, emporte-moi, ton ventre amer me sera plus doux que mon lit. La légende dit que tu offres l'asile à ceux qui te le demandent. » Petit, Moussa, comme tous les natifs de l'île, avait entendu cette légende. Jadis vivait au village un homme qui prétendait au nom de Sédar. Un jour, sa belle-mère, qui lui reprochait de ne pas lui avoir donné de descendance, révéla son impuissance sur la place publique. Vexé, le gendre sortit du village. Arrivé à la plage, les bras ouverts vers l'océan, Sédar clama « Atlantique, emporte-moi, ton ventre amer me sera plus doux que mon lit. Et Atlantique, emporte-moi, ton ventre amer me sera plus doux que mon lit. » Les vagues se refermèrent sur lui, mais son épouse Soutoura, qui l'aimait passionnément, ne le voyait pas revenir, s'en alla à sa recherche. Il avait plu. La veille, et elle n'eut qu'à suivre les traces de ses pas sur le sable. Lorsqu'elle arriva à la plage, elle vit les habitants de son époux au bord de l'eau et se mit à hurler. « Sédar, Sédar, mon amour, reviens-moi !» un dauphin surgit de l'eau et lui dit, Soudoua, ma chérie, la terre des hommes est étroite. Seul l'océan peut couvrir ma honte. Trouve-toi un autre mari, tendre et bienveillant. J'ai quitté le règne des humains. Surtout, ne leur dis jamais ce que je suis devenu. Je resterai leur ami et je viendrai rendre visite aux petits que tu engendreras. Mais il faut savoir tisser le vent pour tresser une laisse au mot, afin d'être sûr de ne jamais trahir le secret de son mari. Bien-aimé, Soutoura se précipita immédiatement dans les flots. Et comme Cédar, elle fut à son tour transformée en dauphin. Et depuis, on voit les dauphins longer les côtes de Nicodior par deux ou accompagnés de leurs petits. Ils sont restés amis des humains. Sans n'osant plus se rendre chez l'instituteur, Moussa s'enfermait et se répétait cette légende. Les semaines passaient, identiques. Les jeunes footballeurs, pour soulager leur corps, endoloris après le match du samedi, allaient piquer une tête à la plage sous le soleil crépusculaire. Ils chantaient et chahutaient avec ardeur. La silhouette bienveillante de l'entraîneur devait s'agiter à plusieurs reprises pour les décider à se rhabiller, à rejoindre leur domicile. C'était toujours ainsi, sauf ce samedi où Ndétar n'eut pas besoin de s'énerver pour les obliger à sortir de l'eau. Mais oui, parler, nous presque fini chapitre là, oui, là, et nous presque avancer, dans ça, on a pas demandé Kiki Wayne White pour une petite musique pour nous, et puis on a pas retourné avec ces chapitres 6 dans le ventre de l'Atlantique avec Fatoum Diom.
Nèg se maman se para petite, mari se para madame. Fomi divise, débranche, débrené, détaché, détaillé, tout yon an chon déraciné. Mouche colon rachène sous terre Afrique. Mouche colon rachène sous terre Afrique. Neg nago, neg guine, neg da home. La vie n'a même grand maître.
negibo, neg nago, negine, neg da ome.
La vie n'a même qu'on met là.
Abdi Kiki, merci hein. Avec musique ça a bien tombé avec ça n'a pas parlé là le ventre de l'Atlantique chez chapitre 6 n'a pas gardé là avec un Fatou Diom c'est une femme sénégalaise qui vit dans la France et bien qui a écrit sous expérience mon immigrant yo frontre là-bas yo en tout cas et n'osant plus se rendre chez l'instituteur, Moussa s'enfermait et se répétait cette légende. Les semaines passaient identiques, les jeunes footballeurs pour soulager leur corps endolori après le match du samedi allaient piquer une tête à la plage. Sous le soleil crépusculaire, les footballeurs chantaient et chahutaient avec ardeur la silhouette bienveillante de l'entraîneur. Devait s'agiter plutôt à plusieurs reprises pour les décider à se rhabiller à ce samedi où Ndeta n'est pas besoin de s'énerver pour les obliger à sortir de l'eau. Le soleil semblait vouloir lisser les rides rougeâtres de la mer. Le musain appelait à la prière du soir. Bong, pong, pong, racas, racas, pong, pong, racas, camas. Les derniers coups de pilon tentaient en vain de révéler les morts couchés aux deux extrémités du village. Soudain, une pirogue finissant son dernier rivage pencha à tribord pour pointer sa proue vers le wharf. À sa vue, le groupe de jeunes se fendit en deux rangées qui se refermèrent aussitôt sur son sillage. Le sable de la plage respirait la miséricorde. Plat, blanc, fin et poreux, il laissait des vagues venir timidement sucer son âme. Quelques débris de bois et autres détritus dérivaient vers le large sur la crête des vagues qui dansaient à reculons en espérant un retour improbable sur la terre ferme. Les palétuviers bordant la plage pointaient leurs branchages vers le sol comme autant de drapeaux en berne. Ces arbres qui inlassablement contemplent leur ombre lorsqu'ils se confondent avec lorsqu'ils ne se confondent pas avec elle, étaient figés là dans l'espoir de voir un jour revenir vers eux leurs feuilles, leurs branches, tous ces bouts de même, et ces bouts de même qu'avec lesquels la mer se retirait. Cette attente ne serait peut-être pas vaine, car la mer sait rendre à la terre ce qui lui appartient. Donc la pirogue accosta, la brise soufflait sur les plaies des vivants. Silencieux, deux pêcheurs débarquèrent leur cargaison. Les jeunes footballeurs s'approchèrent. Sur le wharf, un homme était allongé, les bras vigoureux. Vu de loin, il ressemblait à un baigneur au repos. Seuls nos habitants entrouverts révélaient qu'ils n'avaient pas choisi d'être là, enfin comme encore moins dans cette posture. Donc, non loin du village, juste à l'endroit où l'île trempe sa langue dans la mer, les pêcheurs avaient pris dans leur filet le corps inerte de Moussa. Même l'Atlantique ne peut diriger tout ce que la terre vomit. Allah Akbar, Allah Akbar, à la mosquée, on avait fini de prier, le prêcheur ponctua son prône par ces mots. Chaque miette de vie doit servir à conquérir la dignité. La mémoire de d'état non plus ne pouvait diriger l'aventure de Moussa qui lui remontait à la gorge chaque fois que ces poulains, prétextant leur passion pour le football, se laissaient aveugler par la chimère tricolore. En bon pédagogue, il avait noyé son amertume au fond de son œil cartésien et utilisait cette histoire comme exemple dissuasif. « Méfiez-vous, petit, concluait-il. Allez regarder la télévision chez l'autre parvenu, mais de grâce, n'écoutez pas les sornettes que vous racontent ce tuberlu. La France n'est pas le paradis. » Ne vous laissez pas prendre dans les filets de l'émigration. Rappelez-vous, Moussa était un des vôtres et vous savez aussi bien que moi comment il en est sorti. Madike et ses camarades écoutaient l'instituteur marteler inlassablement les mêmes mots sans vraiment l'entendre. Les enseignants n'ont-ils pas la réputation de parler beaucoup? Pour les joueurs, Nedare commentait. A commencé à vieillir et ne faisait plus que radoter. Alors, lorsqu'il devenait lourd, comment il disait, la petite équipe venait et prenait ses distances pour s'adonner à ses rêves. Certains profitaient de cette absence d'entraînement pour aller assister à des matchs en ville, d'autres pour consulter les marabouts spécialisés dans le foot. Avec leur maigre économie, ils se payaient des gris-gris censés les faire gagner à coup sûr et favoriser un futur départ pour la France. Chaque plante se trouvait investie d'une vertu et sa cueillette associée à une incantation indécodable. Donc les décoctions se multipliaient dans les chambres. Des poulets étaient égorgés selon un rituel compliqué. Sous le regard pudique de la lune, un sorcier ténébreux administrait des doubles purificatrices très peu orthodoxes. Pour ceux qui n'avaient pas assez d'argent en vue de dédommager les savants, les maîtres prêts à tout afin d'améliorer l'avenir de leurs fils se laissaient dépouiller. Adieu, parure et boubou de fête. J'en aurai d'autres quand mon fils s'en retiendra d'Europe, Henri. Quand il s'en reviendra d'Europe, Henri, chut. Ne le répétez pas, ici personne ne voit de marabout. Une ombre n'a pas de nom. La nuit, il n'y a que les esprits qui circulent dans ce village. Pendant des moments de répit, Madike m'appelait plus souvent, réclamant des magazines de foot. Et peu importe la langue dans laquelle ils étaient rédigés, pourvu que Maldini y fût à son avantage, mais il ne se contentait plus de tapisser les murs de sa chambre d'images de son idole. Si ses camarades se servaient du football comme d'un simple prétexte pour atteindre l'Occident et s'y débrouiller dans n'importe quel domaine d'activité, lui voulait aller en France et enflammer les stades de son talent. Après tout, n'était-il pas devenu le meilleur élément de l'équipe du village? Avec un peu de chance, un grand club français le recrutait. Et puis, l'Italie était juste à côté de la France. Il pouvait aller y assister au match du Milan à AC et peut-être serait-il un jour la main de son héros? Inch'Allah, ensuite, il retournerait chez lui, satisfait, riche et heureux. Pour lui, la France n'était pas n'était que la plus courte échelle conduisant au trône de Maldini. Comme pendant les matchs France-Italie, lors desquels il refrenait ses pronostics, il se taisait lorsque ses copains, pour justifier leur désir d'émigrer et clouer le bec à l'instituteur, arguaient d'une liste de projets faramineux. Comment aurait-il pu leur expliquer que lui aussi voulait pour en travailler et gagner sa vie, certes, mais surtout pour une poignée de main? Ndeta interprétait ce silence et comme le maigre résultat de son acharnement pédagogique. En bon enseignant, il se disait que ses tirades restaient utiles tant qu'il pouvait espérer en sauver un. Et puis, pensait-il, Madike ramenait à la raison l'aiderait à convaincre les autres d'abandonner leur idée fixe. Pour s'en persuader, il faisait sien un proverbe de l'île qui, à l'origine, circulait pour mettre en garde les parents des jeunes footballeurs contre l'influence occidentale que lui-même risquait risquaient d'exercer sur leurs enfants. Bien converti sera meilleur prêcheur. Mais pour l'instant, Ndétard devait porter la bonne parole seul et sans grand succès. Les jeunes allaient toujours regarder la télévision chez l'homme de Barbès et rentraient de plus en plus. Leur désir d'embourgeoisement augmentait d'une soirée à l'autre. Et puis, croit que l'instituteur saisit toutes les autres.
Due to COVID-19, WMFO DJs are pre-recording their shows for broadcast on air. We can still accept phone calls, but the phone line is in voicemail mode. Call 855-915-9636 and be sure to leave the DJ's name in the voicemail so we can forward it to the correct person. The following program was recorded earlier. Enjoy.